Au début du chapitre 14 de Jean, les disciples sont dans la plus grande confusion et complètement découragés à cause des événements qui se sont passés. C'est pour cela que Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Ils ont en effet un fort besoin d'être rassurés. Je continue le texte. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Verset 2. Aux dernières nouvelles, il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Je n'ai pas dit étoiles, mais d'ensembles géants d'astres comme la Voie lactée. Notre plus proche et imposante voisine s'appelle Andromède. Elle est à peine à un peu plus de 2 millions d'années-lumière de chez nous. Une bagatelle, quoi. Même si c'est ma plus proche voisine, il va sans dire qu'il ne m'est pas possible de m'y rendre pour lui payer une visite. La Terre représente tout au plus un petit grain de poussière dans cet espace quasi infini. À côté de cette immensité, quelque part, dans une autre dimension, se trouve la maison du Père. Nous ne savons pas vraiment ce que cela veut dire. Le Créateur ne nous l'a pas révélé, sans doute parce qu'il ne me serait pas possible de comprendre, tellement je suis ancré dans l'espace-temps à trois dimensions. Dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu désignait le temple. Ici, Jésus fait référence à la demeure céleste du Père, là où réside la gloire de sa personne. Il dit aussi que c'est très grand, qu'il y a de la place pour tous ceux qui placeront leur foi en lui. L'image décrit une seule habitation avec beaucoup de logements, ce qui fait qu'il n'est jamais nécessaire à Dieu d'installer un écriteau devant sa maison indiquant combien de places sont encore disponibles. En attendant que j'aille dans ma demeure céleste, dans ce vaste univers se trouvent des êtres de lumière intelligents qui nous regardent vivre. Ce sont les anges. En fait, pour eux, c'est comme si j'étais un poisson rouge dans son bocal. Ils sont là, tout autour, à m'observer, et je dois dire que j'aime pas trop l'idée. Mais nous sommes une leçon de choses pour eux, car Dieu n'agit pas avec nous comme il le fait avec eux. Les anges sont avant tout des serviteurs et des messagers. Ils sont aussi les gardiens de la sainteté de Dieu et interviennent de temps en temps dans les affaires humaines selon l'ordre de mission qui leur est donné. Mais à aucun moment dans les textes sacrés, il est dit que l'Éternel aimait les anges. Cela ne veut évidemment pas dire qu'il éprouve de la haine pour eux, mais plutôt que la relation qu'il entretient avec ces êtres de lumière est sur une autre base que l'amour. Les anges connaissent certains aspects de la sagesse de leur Créateur, tels que sa justice, sa puissance et sa gloire, bien sûr. Cependant, ils n'ont pas vraiment compris son amour pour nous, les hommes, avant que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, ne descende ici-bas et offre sa vie en sacrifice pour racheter la race humaine déchue. C'est donc au travers de la vie de ceux qui ont fait confiance en Jésus-Christ que les anges découvrent les multiples facettes de la sagesse de Dieu, et en particulier comment celle-ci s'est révélée dans le plan du salut. Voici, pour confirmer mes dires, ce que l'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres. Je le cite. Dieu m'a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. Ainsi désormais, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Fin de citation. L'amour que Dieu nous porte est sans conteste ce qui étonne le plus les anges, car il se trouve que Dieu ne nous doit absolument rien. Les hommes se croient vraiment importants, Mais dans les faits, la race humaine mérite le jugement divin et non pas la miséricorde. L'Éternel pourrait, d'un coup de crayon, nous rayer de la carte. D'une parole, faire disparaître la terre de l'univers. En un instant, nous serions à nouveau dans le néant, d'où nous venons. Il pourrait facilement créer un autre astre habité par des êtres vivants, dignes, ceux-là. Prenez n'importe quel livre d'histoire et qui découvre-t-on? Des tueries à n'en plus finir et une succession ininterrompue de tous les vices possibles et inimaginables. C'est vrai qu'en cours de route, ici et là, quelqu'un a manifesté une certaine grandeur d'âme, mais c'est plutôt négligeable au regard du reste. Et même les plus belles vertus, les plus beaux accomplissements humains sont toujours entachés d'une certaine dose d'égotisme. Si Dieu nous éliminait, il ne perdrait rien du tout et manifesterait ainsi la gloire de sa sainteté et de sa justice, mais pas de son amour. Or, c'est exactement ce qu'il a voulu démontrer en la personne de Jésus-Christ. Dieu nous aime non parce que nous en sommes dignes, mais en dépit du fait que nous sommes totalement corrompus. Et c'est justement cela qui est incompréhensible. Jésus console ses disciples abasourdis en leur disant « Je vais vous préparer une place ». Il y en aura pour tous. Personne ne se perdra en route. Et nul n'arrivera devant la maison du Père pour s'entendre dire « Zut alors, on vous a oublié » ou encore « Veuillez patienter, ce n'est pas tout à fait prêt ». Jésus est retourné dans le royaume des cieux pour préparer une demeure éternelle à ceux qui lui appartiennent. Ici-bas, on est plus ou moins bien logé selon ses moyens financiers et les aléas de la vie. Mais là-haut, il en sera tout autrement. Ce sera le super grand luxe pour tous. En disant « Je vais vous préparer une place », Jésus communique aussi à ses 11 apôtres qu'ils ne doivent pas avoir peur de perdre leur place sur terre, c'est-à-dire de mourir. Il allait partir et leur aménager une demeure où ils seraient pour toujours avec lui. Je continue le texte. « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Versets 3 et 4. C'est la première fois que Jésus dit qu'il va revenir à la fin des temps, spécifiquement pour chercher ceux qui lui appartiennent et les emmener avec lui dans le lieu qu'il leur a préparé d'avance. Ce sera un événement ponctuel et grandiose, et l'ensemble de tous les croyants sera impliqué. D'autres textes du Nouveau Testament donne davantage de précision. Jean lit 2. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Fin de citation. L'espérance des croyants de l'Ancien Testament était différente de celle des chrétiens. Ils avaient reçu une promesse terrestre, un royaume ici-bas où régnerait la justice et la paix. C'est bien ce qui va se réaliser durant les 1000 ans du règne de Jésus-Christ sur terre. Les disciples écoutent ces nouvelles révélations que leur fait leur maître, mais ils en sont stupéfaits. Cependant, quand Jésus ajoute « Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends », alors là, il décroche complètement. Je continue le texte. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?»«
Le chemin, » répondit Jésus, « c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. »
Versets 5 et 6. On prend tout de suite conscience de la surprise des disciples. C'est Thomas qui parle, mais tous ont la tête pleine d'interrogations. Cependant, celles-ci deviendront des exclamations de triomphe quand ils auront finalement compris la mission de Jésus après sa résurrection. En fait, leur perplexité allait durer jusqu'à la Pentecôte, car c'est alors que le Saint-Esprit allait leur révéler comment mettre tous les morceaux du puzzle en place. Ces paroles de Jésus, « Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie », constituent la sixième déclaration du Seigneur commençant par « Je suis ». Étant donné que Dieu est la vérité et la vie et que Jésus est l'Éternel incarné, il est le lien entre l'être humain et Dieu. L'échelle, pourrait-on dire, qui conduit au Père. Tout le programme divin pour l'humanité, tel qu'il est formulé dans l'Ancien Testament, se trouve réalisé en Jésus. Il est à la fois la vérité de Dieu et l'essence de la vie. Il la donne à qui il veut, comme à Lazare, qu'il a ressuscité des morts, et il est sur le point de l'offrir en sacrifice pour le salut du monde. En disant « Personne ne va au Père sans passer par moi », il fait une déclaration très dogmatique. Contrairement à ce que veulent croire la majorité des gens, la vie éternelle ne s'obtient que par son intermédiaire, parce que lui seul est venu du Père et lui seul a la vie en lui-même. Cette affirmation est incontournable et va à contre-courant de la philosophie de notre époque où tout le monde est gentil et la vérité de l'un est tout aussi valable que celle d'un autre. Cependant, ce qui est exact, juste ou authentique n'admet pas l'erreur. La vérité est inflexible. Et puis, c'est tout. Un tableau signé Van Gogh est vrai ou faux ? Il n'y a pas de tergiversation possible. Quand j'étais à la maternelle, je me souviens encore de la maîtresse et elle était des plus intransigeantes. Elle insistait que 2 plus 2 faisait 4, qu'il s'agisse de pommes, de vaches ou de francs. La banque agit de même, sauf que pour beaucoup d'entre nous, c'est plutôt 2 moins 2 égale 0. Jésus est la vérité et la vie. Il est l'unique chemin qui mène au Père, mais aussi un modèle de vie. Il fut parfaitement obéissant et fidèle à son Père jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa mission. C'est pour cela d'ailleurs que le christianisme fut appelé la voie. Je continue le texte. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Versets 7 et 8. Le Seigneur met les points sur les i pour ses apôtres parce qu'il voit bien qu'ils ne comprennent toujours pas très bien qui il est ni en quoi consiste sa mission. Mais quand il leur affirme qu'ils ont connu et vu le Père, Philippe, calme et peu bavard, mais complètement dans le cirage, profite de cette occasion pour demander à voir le Père, ce qui, dans le contexte juif, est tout à fait incroyable, puisque Dieu ne pouvait être vu. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait aperçu la gloire de l'Éternel, et le prophète Ésaïe en avait eu une vision. Philippe voulait peut-être assister à un spectacle son et lumière, une manifestation grandiose de Dieu semblable à celle que les Israélites connurent durant leur marche dans le désert.
Je continue le texte. « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Versets 9 à 11. Le Seigneur Jésus répond par une déclaration des plus fracassantes qu'il ait jamais faite. Bien que le Père et le Fils soient distincts, le Père est en Jésus et lui-même le révèle parfaitement. Un texte du Nouveau Testament dit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » Fin de citation. Par conséquent, les apôtres voyaient le Père lorsqu'ils étaient en la présence de Jésus. Il leur demande de croire ce qu'il leur dit à cause de son caractère, qui il est, à cause des paroles qu'il dit et aussi des miracles qu'il fait et qui proviennent du Père. L'évangile de Jean met nettement l'accent sur les prodiges et guérisons comme étant une bonne raison de croire au Christ. Je continue. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Verset 12. Les apôtres vont faire des miracles, mais ils ne seront pas plus sensationnels que ceux de leur maître. Cependant, après la Pentecôte, l'Église va rapidement prendre une très grande ampleur. Des milliers de personnes vont mettre leur confiance en Jésus, ce qui n'était pas arrivé alors que le Seigneur était sur terre. Certes, des foules le suivaient, mais uniquement par intérêt égoïste. De plus, les disciples vont aller porter la bonne nouvelle de l'Évangile bien au-delà des limites de la Palestine où Jésus était resté. Mais avant que tout cela n'arrive, le Seigneur doit monter au ciel, d'où il leur enverra le Saint-Esprit et répondra à leurs prières. Je continue. « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Versets 13 à 15. Jésus garantit qu'il exaucera les prières des croyants qui agiront comme ses représentants et qui accompliront son œuvre. Demander en son nom signifie, d'une part, invoquer les mérites du Christ, et d'autre part, prier en accord avec son caractère, sa nature et sa volonté. Or, toute la vie terrestre de Jésus a consisté à chercher la gloire de son Père et l'avancement de son règne. Il fut le modèle parfait d'obéissance et d'amour, et ses disciples ont à charge de suivre son exemple en se soumettant à lui. Pour être exaucé du Seigneur, il est crucial de lui obéir. Celui qui ne tiendrait pas compte des enseignements de Jésus et qui essaierait d'obtenir une réponse à ses prières pourrait être comparé à quelqu'un qui tenterait d'encaisser un chèque qui ne lui est pas destiné en imitant la signature du destinataire. Ce serait de la contrefaçon. Je continue. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur et défenseur, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Versets 16 à 17. C'est la première fois que Jésus parle explicitement du Saint-Esprit à son groupe de disciples. Jusqu'à présent, l'apôtre Jean a dit très peu de choses le concernant. Tant qu'il était sur terre, Jésus parlait et agissait au nom du Père. À partir de la Pentecôte, l'Esprit va représenter Jésus et, dans un sens, le remplacer. Il sera le moyen de contact entre Dieu et les croyants et leur viendra en aide dans les épreuves de la vie et dans les persécutions qu'ils vont connaître. Il leur apportera aussi un réconfort après le départ de Jésus. Étant l'Esprit de la vérité, il conduira les disciples dans le vrai, afin qu'ils ne se laissent pas tromper par les hérésies qui ne manqueront pas d'apparaître au fil des siècles, ce qui est toujours d'actualité maintenant plus que jamais, comme chacun sait. Sans parler de ce qui nous vient de l'Orient, le nombre de sectes se réclamant de Jésus est effarant. Cette confusion voulue et orchestrée par le diable est très efficace. La plupart des gens qui auraient un intérêt spirituel trouvent que c'est tellement compliqué de s'y retrouver qu'il vaut mieux rester dans le courant principal et traditionnel du catholicisme romain. Le ministère du Saint-Esprit, quoique invisible, est bien réel. On peut le comparer aux ondes radio, tout comme celles-ci ne peuvent être saisies que par un poste récepteur. De même, l'action du Saint-Esprit n'est perçue que par ceux qui sont nés de nouveau. La régénération, le fait d'appartenir à Dieu, joue le rôle d'une antenne qui capte la présence et la direction du Saint-Esprit. Il était déjà à l'œuvre dans la vie des apôtres, mais à partir de la Pentecôte, il demeurera dans l'âme de chaque croyant. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.